Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font les bonheurs des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After sur RMC, l'After en direct 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. Présent ce soir, Jonathan McCarty, salut Jo.
Salut Thibaut.
Et Walid Acharchour, salut Walid.
Salut Thibaut, salut Jonathan, salut à tous.
Jonathan McCarty, alias Grand Corps Malade, je ne sais pas si tu l'as vu arriver Walid.
Non,
il arrive entré dans la pote, qu'est-ce qui se passe?
Mais non, tout va bien, c'est un mythe ça.
C'est un mythe?
Ah, mais tout va
ah oui, d'accord. Ah, c'est du bluff.
C'est un coup de bluff.
C'est du bluff. Ok, il bluffe. Très bien. Ouais. Et Walid qui nous revient d'un stade.
Ouais, du stade Bauer.
De National.
Stade mythique, ouais.
Où ça joue en ce moment les dernières minutes en National. On vous donnera les résultats dans quelques minutes.
Le championnat du millénaire.
Saint-Ouen
ici, là.
Ouais.
J'ai pu voir que 60 minutes, malheureusement.
Enfin, heureusement ça roule à ce tard-ci. Hein.
Oui, ça roule bien.
Ah, il reste quelques minutes et pour l'instant, en National, où seulement deux équipes montent, c'est Concarneau et Dunkerque qui accèdent.
C'est un championnat où toutes les minutes, le sort de certaines équipes peuvent changer.
Ouais. Alors, on vous donnera les résultats du National et on en dira un mot, les conséquences, parce que c'est la dernière journée. Hein. Ce soir, on connaîtra les montées en Ligue 2 et les descentes tout à l'heure. Au programme, ce soir, déjà, aucune équipe ne retrouve la Ligue 1. On avait la 37e journée, vous l'avez vécu sur RMC ce soir. Le Havre avait une balle de match, les Bordelais pouvaient s'en rapprocher finalement. Personne ne monte, les Havrais ont fait match nul. D'ailleurs, n'hésitez pas, supporters Havrais, Bordelais, Messin, les trois clubs qui se jouent les deux places pour la montée. 32-16, si vous voulez nous appeler, je vous récapitulerai les résultats dans un instant. Et ce soir, vous avez la parole sur RMC. Au programme également, la Ligue 1, l'avant-dernière journée. Demain, Auxerre mérite de se maintenir. C'est l'avis tranché de Walid.
Exactement.
Ce soir.
Il a raison.
Direct quoi.
Il
c'est validé, c'est validé.
On va attendre de voir quels sont ses arguments. Moi je suis totalement d'accord avec.
Tout de suite.
Bon, tu développeras ça tout à l'heure Walid et vous réagirez Jonathan, mes Auxerrois, mais Nantais également. Je vous attends au 32-16. La course à l'Europe également dans l'after ce soir. Le LOSC est-il le favori pour la Ligue Europa? Là aussi 32-16, Lillois, mais aussi Monégasque, voire même Rennais. N'hésitez pas, vous nous appelez ce soir et vous venez débattre avec l'after. On parlera également du Paris Saint-Germain qui devrait officiellement être titré demain. Selon nos infos, le dirigeant souhaiterait prolonger Sergio Ramos. Ferait-il une erreur en signant cette prolongation? On vous attend là aussi pour en débattre au 32-16. Et puis en fin d'after, l'actu du jour, pas mal de petites choses, et donc notamment le National, où on récapitulera les résultats et on vous donnera les montées définitives ce soir. Vous réagissez sur tous ces sujets, bien sûr, le 32-16. Vous nous appelez, Adrie vous attend au standard et vous venez débattre en direct dans l'after. Vous pouvez également commenter sur Twitter, le hashtag RMC Live, sur le direct studio, sur les applis RMC, RMC Sport. Et puis qui dit vendredi, dit Twitch. L'after en direct sur la chaîne RMC Sport.
C'est comment la Twitcherie?
Sacha est là-haut, du monde également dans le chat.
Quelle couleur sont ses lunettes?
Là, il est dans la sobriété. Top. En tout cas, sachez que vous pouvez venir nous voir, nous regarder sur Twitch et surtout commenter et participer au débat dans le chat de la chaîne Twitch RMC Sport.
Tu savais que c'était l'homme à la mode, Sacha?
Pourquoi c'est l'homme à la mode?
Il commente les grosses cartes de MMA, il participe à des émissions, et il monte en gamme.
Il sera content, on l'embrasse. Mais pour commencer les gars, nous sommes vendredi, mais pas n'importe quel vendredi. Nous sommes vendredi 26 mai 2023. Eh oui, il y a trois ans jour pour jour, naissait ma fille. Je vous souhaite un bon anniversaire.
Elle est née le 26 mai?
Elle est née le 26 mai, ouais, 2020.
Bah elle est bénie.
Non,
un destin brillant.
Alors le destin, je sais pas, parce que le destin après 93 a été un peu compliqué.
Non mais pour elle, c'est pour le symbole, c'est une winneuse, c'est une gagnante.
Parlons plutôt de l'OM qui remportait donc la Ligue des Champions il y a 30 ans. C'est aussi donc c'est l'autre anniversaire un peu secondaire du jour. Mais à Marseille, ça a été une journée de fête exceptionnelle. On sera en direct avec Florent Germain dans quelques minutes parce que les festivités continuent. Il va y avoir ce soir des fumigènes sur plusieurs kilomètres sur le littoral marseillais. C'est un truc assez dingue. Que va nous raconter Flo tout à l'heure en direct de Marseille. Il nous racontera ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passera demain et puis surtout comment l'OM d'aujourd'hui, l'OM 2023, gère un peu les festivités pour les 30 ans. Voilà, comment l'OM de Longoria gère tout ça. On sera avec Flo tout à l'heure. Puis tiens, il est 22h49, le match est fini. Parce qu'à Marseille, on rediffusait également le Milan OM de 93 sur un écran géant de la mairie. Et donc voilà, Basile Boli a marqué, c'est l'OM qui gagne cette coupe des clubs champions. Faisiez quoi les gars le 26 mai 93?
J'étais pas né.
Boli. Ouais.
Moi j'étais pas né.
Mais t'es 1,93 d'ailleurs.
Oui, je suis à 93.
Voilà, donc tu grandissais tranquillement dans septembre. Le ventre de maman quoi.
Septembre 93.
Et toi Jo?
J'étais trop jeune. J'avais 7 ans.
7 ans, t'es
7 ans. Pas du foot à 7 ans.
Ouais, j'étais trop enfant.
D'accord.
Donc toi, tu supportes le club, mais après quoi?
Bah ouais.
C'est terrible, hein.
Ouais.
Terrible.
Ouais.
Alors, je vous précise, vous écoutez l'after, vous avez écouté l'émission d'hier. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller sur le podcast. Il y a eu près d'une heure consacrée à ces 30 ans, les festivités, l'héritage, avec tout a été abordé. Hein. Bah, c'est l'after, évidemment, la face plus sombre de ces 30 ans, les succès, les doutes autour de cette victoire. Donc, je vous renvoie au podcast d'hier. On va pas le refaire ce soir. On a beaucoup d'actu et ça a été fait largement hier soir en longueur. Je vous rappelle également que vous avez toujours le Panthéon consacré à Bernard Tapie qui est dispo sur les applis RMC, le podcast Panthéon de Nicolas Jamin. Donc n'hésitez pas à l'écouter ça en podcast. On sera avec Flo dans quelques minutes, mais tiens Jo, on peut commencer par ça. On en parlait en préparant l'émission. Bon toi, l'OM, même si tu ne les as pas vu gagner, un club que tu aimes bien. Et ces 30 ans, cette fête, ça te saoule un peu quand même en fait.
Bah, en fait si, je les ai vus gagner. Oui, des coupes de la Ligue, trois coupes de la Ligue et un titre de champion.
Génial.
En fait, c'est pas que ça me saoule un peu, c'est que évidemment c'est magnifique de faire la fête, de faire cette fête-là, de célébrer le seul et unique club qui a gagné la Ligue des Champions. C'était une épopée qui était fabuleuse. Alors, je sais qu'hier ils ont un petit peu tout dit là-dessus, mais je trouve que l'histoire générale, et même en prenant le côté sombre de l'histoire, bah c'est une histoire qui est dingue, qui est digne des plus grands films, des plus grands romans. Ça fait tout le côté mystique de cette épopée. Il y a des figures de proue de cette équipe qui sont c'est des mecs géniaux. On en a un qui travaille avec nous, qui est Eric Dimeco, mais c'est vraiment c'est resté des grands noms du foot. Il y a des choix, Marcel Desailly, donc forcément Fabien Barthez, t'as envie de les adorer ces mecs-là. Le seul truc qui me chagrine un petit peu, c'est que quand on prend un peu de recul, je me dis bon ben s'il y a autant d'effervescence et de joie pour fêter ce titre-là, l'anniversaire de ce titre-là 30 ans après, c'est un peu triste pour un club comme l'OM, comme l'Olympique de Marseille, qui est le plus grand club du football français, de ne pas avoir eu d'autres très grands moments à célébrer depuis 30 ans. C'est un petit peu le revers de la médaille. Alors désolé de faire un petit peu le peine à jouir et le pisse-froid, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça en voyant toutes ces festivités. Alors évidemment j'ai envoyé un message à tous mes amis marseillais, à tous mes copains et tout. Et évidemment que ça rend fier. C'est une journée qui rend fier tous les Marseillais de se dire on est toujours le seul club à jamais le premier. Mais je pense que les supporters les plus exigeants, et on sait à quel point les Marseillais sont exigeants avec leur club, bah, je pense qu'ils ont aussi ça quand même un petit peu dans un coin de leur tête en disant la merde, depuis 30 ans on n'a pas eu d'autres grands événements à célébrer.
Et c'est un peu ce que dit d'ailleurs Eric Dimeco, qui évidemment on a beaucoup parlé ces derniers jours. C'est un peu ça quoi, c'est qu'il est content de le fêter, mais d'un autre côté il aimerait que les jeunes qui n'ont pas connu tout ça puissent avoir un titre plus récent à fêter. Wally, tu veux rajouter quelque chose?
Non, tout a été dit. Et puis en plus il y a beaucoup plus de personnes qui se sont exprimées aujourd'hui sur l'antenne d'RMC qui ont vécu ce moment-là, on écoute et c'est de la transmission.
22h52 et je vous renvoie au podcast d'hier, un after très intéressant. Et surtout Flo Germain sera avec nous dans quelques minutes pour conclure cette journée de festivité à Marseille.
Il va avoir du boulot Flo, hein, je pense cet été. On est d'accord Wally, tu sais à quoi je fais allusion?
Oui, je pense qu'il va avoir du boulot, oui.
T'as vu les news du jour?
Oui.
Ouais,
on va attendre que ça soit confirmé par nos équipes.
Oui, ou pas. Tu parles de Tudor, il y a des
confirmé
rumeurs.
Ou infirmé,
pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs.
Et on a les deux promus en Ligue 2.
Alors voilà. Tiens, vas-y, Wally, t'avais un œil sur le national.
Concarneau et Dunkerque vont monter en Ligue 2. Dunkerque vient de s'imposer contre Le Mans 3-2 et Concarneau s'est imposé 2-1 à Orléans dans une soirée complètement folle où il y a eu plusieurs scénarios. Dunkerque qui menait 2-0, qui a été rejoint 2-2 par Le Mans et qui derrière a été chercher cette victoire. Donc le Red Star et Martigues restent à quai.
C'est marrant, c'est un Walid qu'on connaît pas, tu sais. J'ai l'impression, j'ai envie de te lancer sur un journal des sports. Alors Walid, les résultats ce soir, que faut-il retenir?
Ouais, non mais j'accuse un peu le coup, j'avais une vraie préférence pour le Red Star et ça se joue à très très peu de choses, même si Concarneau et Dunkerque méritent totalement leur montée.
On est sur Marseille là, il revient quand Stéphane Sparagnin au Red Star là? Il a eu les ruptures des ligaments croisés, j'ai vu qu'en fin janvier il avait repris l'entraînement.
Je l'ai pas vu une seule fois.
Sur le site, sur le site du Red Star, il a même un espèce de billet d'humeur où il raconte un petit peu sa rééducation.
Ouais, alors, j'ai pas.
Pour conclure sur, on va refermer Sparagnin et pour conclure sur.
On va refermer ce paragraphe.
Voilà, sur le national. Donc il y avait deux montées. C'est pour Concarneau et Dunkerque. 6 descentes en national cette année.
Et Nancy descend.
Voilà, il reste quelques secondes, mais Borgo,
ça m'avait échappé. Ça.
Le Paris 13 Atlético, Le Puy-en-Velay, Stade Briochin, Bourg-en-Bresse et Nancy sont les clubs qui sont relégués à quelques secondes de la fin. Et c'est même c'est pas terminé. Il reste quelques secondes, mais
Nancy en National 2.
Ça y est.
Ouais. C'est un Nancy, National 2. Vous vous rappelez au milieu des années 2000 que Nancy c'était un prétendant à l'Europe ou une équipe frisson du top 10, tu vois?
Ouais. Avec le grand Pablo Correa et Moncef Zerka et Youssouf Hadji,
et
Berenguer et tout. Et
ouais. Alors les gars, vous l'avez vécu ce soir en direct sur RMC, l'avant-dernière journée de Ligue 2. Et ce soir, ce qu'on peut dire à 22h55, c'est que tout jouera la semaine prochaine. Personne n'est officiellement en Ligue 1, puisque ce soir, Le Havre a été tenu en échec à Bastia 1 partout. Et encore, les Havrais ont égalisé. Metz s'est imposé 1-0 à Sochaux. Et Bordeaux a été battu à Annecy 1-0. Conséquence au classement, Le Havre est toujours leader avec 3 points d'avance sur Metz, qui passe devant Bordeaux à la différence de but. 72 points pour Le Havre, 69 pour Metz et Bordeaux. Oui, mais... Et on a Eric qui nous appelle, c'est un supporter bordelais. Salut Eric.
Ben, salut à toute l'équipe.
Salut Eric.
Vous avez un type en dépression là ce soir.
Eh ben écoute, sois le bienvenu, on est là pour ça, tu le sais, dans l'after. On aurait aimé avoir des Bordelais, des Havrais ce soir pour fêter une montée, mais...
Oui. Non, mais là c'est limite faute grave. On va chez une équipe, on a fait un nul et une victoire. On se disait, on va aller faire le nul à Annecy, et après contre Rodez, on fait la fête. On met une équipe avec 4 attaquants, alors qu'on sait qu'on a une équipe en face qui va nous mordre les chevilles, qui va faire un pressing fou. Moi, en tant que supporter bordelais, sur les réseaux, j'avais dit, il va pas falloir mettre une équipe de danseuses. Mais on a mis Franck Sergio au milieu, c'est-à-dire qu'on avait un milieu qui défendait. Au lieu de densifier le milieu, de les inspirer pour jouer en contre, on avait le nul à aller chercher. Là, il met 4 attaquants, Guillaume. Pour moi, il s'est trompé d'équipe. Alors après, vous allez me dire, c'est facile de faire le match après. C'est facile de dire, ouais. Non, mais aujourd'hui, c'est dramatique. On n'a plus notre destin en main, ce qui va être effroyable si jamais Metz gagne 1-0 et Le Havre aussi. On va rester en Ligue 2 avec 4 descentes. C'est effroyable.
Toi, tu fais quasiment une croix sur la montée?
Les gars, faut qu'on gagne 4 ou 5-0 contre Rodez. Alors on va dire nos amis Bastier, avec qui on s'est frité à la maison et qui nous emboulaient un peu, on va compter sur que Bastia ne perde pas à Metz. Moi j'y crois pas, franchement. Donc 1-0. Après, vous allez me dire, on a Dijon qui peut nous sauver aussi, en allant gagner au Havre.
Et oui.
Faut pas croire au Père Noël, quoi. On avait juste à faire le nul à Annecy. Juste ça. Et là, on met une équipe complètement déséquilibrée. On met un milieu qui a été bouffé. Voilà. Alors, mais Guillaume, c'est pas la première fois. On va là-bas, la refuser des 4 attaquants. Moi, je mets 3 milieux, je mets que 3 attaquants. On joue haut, on les presse. Et là, on s'est fait bouffer. On est tombé sur une équipe, et bravo à eux, qui nous a, on a eu de la chance encore de pas prendre 2 ou 3-0. Bon, après, on a été maladroit, comme c'est pas possible. Maja, depuis ses deux pénaltys ratés, il n'y est plus. Voilà. Donc, on n'a plus notre destin en main. C'est ça le problème.
Bon, tu iras au stade contre Rodez quand même la semaine prochaine.
On rejoint Rodez, qui va avoir comme Annecy, quoi. Une équipe qui lutte pour pas descendre. On va leur mettre 5-0?
Eh ben écoute, réponse la semaine prochaine, Eric, et j'espère que d'ici là, tu vas quand même passer un bon week-end, mon Eric.
Ouais, ah ben si, je vais passer un bon week-end, c'est un week-end allongé. Non, je vais pas passer un bon week-end, les gars. Bon. Merci beaucoup quand même.
Merci d'avoir été là, Eric, et à très vite. Et j'espère dans une semaine pouvoir te reprendre et fêter autre chose. Bye bye, Eric.
J'y crois pas trop. Merci beaucoup.
Allez, salut, Eric. Bon, bye bye.
Le Havre vis-à-vis des 3 points d'avance sur Bordeaux, on en parlait avec Walid avant l'émission. Il faut pas qu'ils perdent avec plus d'un but d'écart.
Oui, même un match nul et c'est bon.
Ouais. Non, mais une défaite. Faut que la défaite soit par un but d'écart maximum.
On aura le temps d'en parler un petit peu après ou
non?
Non,
c'est pour ça.
Non, mais Bordeaux, il y avait tout le déplacement à Annecy représenté ce traquenard et ils sont sont complètement rentrés dedans de plein fouet, et là ils ont plus leur destin entre leurs mains, donc ça va être très 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 compliqué, sachant que Metz joue Bastia à la maison et que Bastia n'a plus rien à jouer.
Et la 38e journée de Ligue 1, ce sera vendredi prochain à 20h45 sur RMC, un nouveau multiplex. Dans un instant, la Ligue 1 et le multiplex de l'avant-dernière journée, demain soir à 21h sur RMC, la lutte pour le maintien, pour la Ligue Europa, le Paris Saint-Germain, la prolongation de Sergio Ramos, tout ça c'est dans un instant sur RMC avec vous tous au 32-16. Et puis on y verra à Marseille avec Florent Germain la suite et la fin de cette journée de fête pour les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions. À tout de suite, 22h59, l'after revient avec Walid Acharchour et Jonathan Mekardi.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Walid Acharchour et Jonathan Mekardi, soyez les bienvenus, l'after en direct jusqu'à minuit, en direct à la radio sur RMC, direct vidéo sur Twitch, la chaîne RMC Sport. Vous pouvez commenter dans le chat votre émission ce soir. Vous pouvez également commenter sur les applis RMC, RMC Sport, le direct studio ou encore sur Twitter, le hashtag RMC Live. Dans quelques minutes, on se projette sur la 37e journée de Ligue 1. Dans 24 heures, on y verra de jeux déjà beaucoup plus clairs, les 10 matchs en même temps, demain à 21h. On vous attend au 32-16. Hein. Dans un instant, le maintien, la course à la Ligue Europa avec les Lillois, notamment la prolongation de Ramos. Mais d'abord, l'Olympique de Marseille. Florent Germain est dehors à Marseille ce soir. Salut Flo.
Salut Thibaut. Effectivement, je suis perché en haut de Notre-Dame de la Garde. Et écoutez, il y a les cloches de Notre-Dame qui pour l'occasion résonne. Non, mais c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on est en train de vivre, puisque sur tout le littoral, pour ceux qui connaissent, de la Pointe Rouge au sud de Marseille à l'Estac au nord, on a des centaines voire des milliers de supporters marseillais qui se sont regroupés et qui ont brandi à partir de 23h normalement, mais allez, 23h59, 22h59 plutôt, les fumigènes. On nous parle de 8000 fumigènes brandis. Là je suis précisément à Notre-Dame de la Garde, où il y a d'ailleurs le maire de Marseille, Benoît Payan, qui est en train d'arriver. Il est entouré de Colette Cataldo, la patronne emblématique des Dodgers, l'un des groupes de supporters marseillais. Là, on a, pour vous décrire un petit peu, des tonneaux remplis de sable et dans lesquels on craque fumigène après fumigène. Il y en a des centaines autour de moi, tout simplement. Donc, c'est un spectacle visuel qui est très particulier. Des feux d'artifice, c'est là. Là, je devine un feu d'artifice, par exemple, tout près du Mucem. On voit également du côté des quartiers sud, un autre spectacle pyrotechnique avec aussi beaucoup de fumigènes. Il y en a qui sont sortis en bateau carrément pour allumer ces fumées. Donc, ça peut paraître démesuré, mais ce qui est beau aussi, c'est qu'autour de moi, j'ai des supporters marseillais de toutes générations confondues. Il y a des minots là qui n'ont même pas 10 ans à mes côtés. Et donc, évidemment, ils n'ont pas vécu le 26 mai 93. Mais je peux vous dire que les parents ont dû bien bosser et raconter des petites histoires avec la tête de Boli, le corner d'Abidi Pelé. En tout cas, ils connaissent tout de ce 26 mai 93 et aussi fête ce titre 30 ans après.
Ouais, c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui à Marseille ce soir. Là, on entend derrière les cloches de. Alors, attends, raconte-nous aussi, Flo, parce que ça a été une longue journée ce soir. C'est l'épilogue d'une longue journée. La mairie a été prise d'assaut aussi. Hein. Par les supporters.
Exactement. Il y a eu effectivement un rassemblement à l'hôtel de ville à partir de 17-18h. Les joueurs, pas tous, mais la plupart des joueurs de 93, du 26 mai 93 étaient au balcon. Éric Dimeco, Basile Boli, on a également vu non pas Jean-Philippe Durand qui lui était absent, mais Alain Boxic, costaud, un gaillard, le Alain Boxic. Il y avait du beau monde parmi les joueurs, un discours du maire. Et puis ce qui a été assez frappant, je vais vous dire, c'est que juste après, alors qu'on a sur les coups de 18h30 dévoilé une immense voile à jamais les premiers avec le logo de l'OM, Notre-Dame de la Garde également, et le nom des groupes de supporters. Après, le match a été diffusé à 20h précisément, et il y a eu une explosion de joie sur le but de Boli qui était très sympathique, parce qu'évidemment tout le monde le savait, tout le monde se préparait, mais tout le monde a joué le jeu. Et chez certains qui ou n'étaient pas à Munich ou étaient trop jeunes et ne l'ont pas vécu, c'était un petit peu le revivre par procuration quelque part, parce qu'ils l'ont lu dans les livres, les parents, les grands-parents l'ont raconté. mais là ils l'ont revécu à Marseille, dans leur ville, avec ces festivités. Et puis ça va se poursuivre demain aussi, puisque il y a évidemment le match OM-Brest, et un tifo géant a été préparé pendant de longues journées, avec 67 000 sets de table, on appelle ça, les 67 000 papiers qui seront brandis par tous les supporters, puisque le match est évidemment à guichet fermé. Je vais pas, comme on dit, spoiler le tifo, mais vous imaginez bien qu'il y aura de belles références à des personnages importants du 26 mai 93.
Tiens, Flo, Joe en parlait tout à l'heure, je sais pas si tu as entendu, sur ces célébrations qui lui font plaisir, mais d'un autre côté, voilà, tu te dis, tu fais un truc qui a 30 ans, et ça veut dire aussi que depuis, il n'y a pas eu autant, en tout cas. Comment l'OM 2023, l'OM de Longoria, vit ses festivités et vit avec ça finalement aujourd'hui?
Je pense de manière assez juste et avec surtout beaucoup de pudeur. C'est-à-dire que Pablo Longoria, il veut surtout pas s'approprier la chose et faire la fête au village. On l'a pas vu par exemple sur le balcon. Il était présent à la mairie de Marseille quand Éric Dimeco, Basile Boli, le maire, Laurent Tapie également, tout le monde est sorti, lui il est resté un petit peu en retrait.
Très bien.
Lui ce qu'il veut c'est mettre à l'honneur les anciens, c'est ce qu'il fait demain, puisque les joueurs de la finale sont invités à la commanderie. Ensuite il y a un déjeuner à la Villa Gabi, un restaurant bien connu de Marseille, où tout le monde pourra profiter du président Pablo Longoria, échanger sur l'OM, etc. Mais lui veut pas se mettre en avant, il estime que c'est avant tout une fête populaire, une fête pour les supporters, que ça leur appartient, que ça appartient à l'histoire de l'OM. Donc voilà, il veut faire ça avec pudeur, je pense que c'est le mot, et ne pas trop en rajouter, parce que il estime aussi que 30 ans c'est un petit peu long. Et puis c'est quand même une pression, hein. Vous savez, je crois que tous les coachs qui sont passés par l'OM, et Igor Tudor en a été l'illustration encore hier, ils ont souvent cette phrase de dire le maillot il pèse à Marseille. Mais s'il pèse, c'est pas que lié au fait que le Vélodrome est tout le temps plein, c'est lié aussi à l'histoire. Marseille veut revivre, Marseille veut regagner la Ligue des Champions, les supporters à Marseille, il ne demande que ça, et pourtant on en est très loin à Marseille. Donc il y a ce paradoxe là et pour des dirigeants comme Pablo Longoria, il faut construire et demander de la patience avec cette pression et cette envie de retrouver de belles heures et de grands titres, comme c'était le cas donc le 26 mai 93. Tiens, vous entendez ça, c'est une fusée,
ouais.
Bam, allez, direction le littoral.
C'était
enfin, voilà, quelques fusées, feux d'artifice,
c'était tellement près, on a cramé, ouais. Que c'était toi Flo qui l'avait envoyé, la fusée, par contre,
ouais, fusée, feux d'artifice, des drones également missionnés par la mairie de Marseille. Enfin, je ne sais pas si on voit ça dans beaucoup de villes,
c'est,
mais la mairie de Marseille, pour faire plaisir aux supporters, a missionné des drones pour que ça fasse de magnifiques images. Donc, j'ai eu le sentiment, honnêtement, pour terminer, aujourd'hui, ça donnait l'impression que c'était un peu un 14 juillet. Tu sais, quand tu, en famille, tu vas te balader, tu te donnes un rendez-vous et tu montes sur les hauteurs pour avoir la meilleure vue. Bah, le spectacle des fumigènes des supporters marseillais, ils ne voulaient pas le manquer. Enfin, en tout cas, c'était le cas pour quasiment tous les Marseillais qui ont mis sont sortis au balcon, à leur fenêtre, ou tout simplement ici à Notre-Dame-de-la-Garde, où il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi pour voir le spectacle.
Ouais, Jo.
Je trouve que c'est très important ce que Flo nous raconte, notamment sur la posture de Longoria. C'est toute la différence entre lui et l'incompétent notoire qu'il y avait au club auparavant, qui se serait affiché, on n'en doute pas, hein, à toute occasion.
On n'en sait rien.
Mais évidemment, le mec, il a posé avec le trophée, Thibaut.
Oui, d'accord.
Évidemment.
C'était pas les soirs des 30 ans.
Ça ne m'étonne pas. Après, c'est quand même bien par rapport à ce que j'ai, c'est quand même bien parce que ça fait partie de la construction de la mémoire collective d'un club auprès des générations, plus jeunes qui n'auraient pas vécu ce moment-là. Et Flo, toi, tu constates quoi quand tu regardes ces festivités? C'est tous les âges qui sont mélangés, hein. C'est pas juste des vieux de la vieille.
Et ce sera
Non, clairement, tous les âges sont mélangés, c'est ça qui est assez sympa. Il y a la nostalgie de ceux qui l'ont vécu ou qui étaient à Munich ou ici et qui se refont un petit shoot de bons souvenirs, c'est ce que certains m'ont dit. Et puis les jeunes qui en ont peut-être marre des vidéos pas noir et blanc, mais des vidéos sur internet ou des livres, et qui voulaient un petit peu le fêter à leur manière. Mais franchement, je vais pas vous le cacher, il y a une envie profonde à Marseille de revivre des émotions, de revivre des titres. Ce serait faux de dire que à Marseille on vit dans le passé, on veut surtout regagner et voilà, sans oublier ce qui s'est passé il y a 30 ans, mais regagner, regarder devant, regarder l'avenir.
Je sais pas si la petite sirène derrière elle était prévue celle-là. Merci Flo d'avoir été là ce soir. Bonne soirée.
Ciao
à
les
toi.
Amis.
Bye bye Flo, qu'on retrouvera demain bien sûr pour cette 37e journée de Ligue 1, l'after avec Walid Acherchour, avec Jonathan McCarty. Cette avant-dernière journée de Ligue 1 et Marseille qui va quoi essayer d'aller chercher la deuxième place. Il y a 5 points de retard. Marseille qui recevra Brest demain. Tous les matchs à 21h sur RMC, ça va être le feu. D'ailleurs, dès 18h, soirée spéciale Ligue 1 sur RMC, l'avant-match, les dernières infos, compos, les ambiances, ça va être la folie. On se retrouvera à 21h pour le coup d'envoi des 10 matchs qui inspirent à Walid un avis tranché ce soir.
T'as commencé à devenir un petit peu effilé façon oignon.
Tu nous as dit ça ressemblait à Bouteflika.
À Bouteflika, oui.
Ah oui.
Malheureusement, à ce moment-là, j'ai dit faut, on va raser le kiwi.
Walid, c'est la course au maintien qui t'a inspiré ce soir. Et on vous attend, supporters Auxerrois Nantais au 32-16.
Oui, parce que je voulais en parler cette semaine. On n'a pas eu l'occasion d'évoquer cette course au maintien et on va rentrer dedans demain. Et pour moi, c'est le plus gros suspense. Bien évidemment qu'on parlera de Lens Marseille tout à l'heure, de la course à 3 pour l'Europe avec Monaco, Lille, Rennes et Lyon, même la course à 4. Mais pour moi, dans cette course au maintien entre Nantes et Auxerre, parce qu'aujourd'hui on est sur une course à 2, je voulais développer l'avis qu'Auxerre, pour moi, mérite beaucoup plus de rester en Ligue 1 par rapport à ce qu'ils ont produit cette saison et en comparaison avec Nantes. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, sur les 15 derniers matchs, cette équipe-là a pris 21 points. Nantes en a pris 11, donc c'est 10 de plus. Parce que je trouve qu'il y a eu un vent de fraîcheur, que ce soit dans la direction, avec des choix intéressants, avec quelques prêts, avec le fait que Pélissier a été promu entraîneur, l'arrivée d'Isaac Touré, l'arrivée de Radou, devant on a eu des choix forts et on a eu des joueurs qui ont été intéressants. C'est pas bien évidemment le Brésil 70, mais dans cette constitution d'équipe, dans cette fraîcheur, dans ce renouveau, dans les matchs que je regarde avec Auxerre, on l'a encore vu là récemment. Contre le PSG, où pendant 20-25 minutes ils font mal à cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors bien évidemment que Nantes nous a donné des émotions en Europe notamment et en Coupe de France, mais si on doit juger sur la Ligue 1, Auxerre n'a vraiment rien à envier à Nantes cette saison, loin de là. Et moi je trouve que si Auxerre va chercher son maintien, que ce soit contre Toulouse demain et derrière contre Lens à la maison, qui pourrait être sûr de finir deuxième, et ben ce serait mérité par rapport à la proposition foot et surtout en comparaison avec ce que Nantes fait depuis plusieurs mois où ils se moquent du monde.
Auxerre à Toulouse demain 21h, Nantes sera à Lille à la même heure, la dernière journée pour ces deux clubs, donc Auxerre-Lens tu viens de le dire la semaine prochaine et Nantes recevra Angers. Jo, tu partages l'avis de Walid et je vous attends au 32-16 hein, et également sur le direct studio ou dans le chat de la chaîne Twitch RMC Sport.
Bah évidemment parce que je suis avant tout, j'aime beaucoup Christophe Pélissier déjà. J'avais adoré la manière dont il avait, j'en parle souvent parce que j'avais adoré la manière dont il avait réussi à sauver Amiens.
T'aimes pas Pierre Aristouille?
Non, j'ai rien contre lui, mais j'avais beaucoup aimé la manière dont il avait réussi à sauver Amiens une année en faisant le all-in, en mettant une vraie équipe en 4-2-4 avec vraiment quatre attaquants. Il y avait Guirassy, il y avait Konaté, il y avait Godos, ouais. Rappelez de ce joueur qui était très très bon. Après, il y avait eu ces histoires de suspension. Donc voilà, c'est vraiment un entraîneur qui, je pense, a totalement foiré son passage à Lorient, mais qui là remontre un petit peu ce qu'il nous avait montré quand il était à Angers, c'est-à-dire pas forcément dans le système de jeu et dans l'animation, mais dans la volonté de jouer. Alors évidemment, c'est une équipe qui a beaucoup moins de talent que Nantes, mais je la trouve tout aussi beaucoup plus méritante parce que quand tu regardes le 11 de départ de la JOCR, t'as pas les joueurs du FC Nantes. Il y a pas vraiment internationaux, c'est un peu fait de bric et de broc. Je pense qu'ils ont beaucoup souffert du fait de pas avoir un attaquant qui met au moins sa grosse dizaine de buts. Je pense que quand tu regardes les équipes qui jouent le maintien, d'avoir un avant-centre qui est capable de mettre aller, en général c'est 12-13 buts en Ligue 1, c'est quand même un très gros plus sur les autres. Et eux, tu vois, leur meilleur buteur c'est Nuno Da Costa qui en a mis 5, c'est pas non plus faramineux. Donc je trouve ça très très bien ce qu'ils font avec le matériel qui est mis à la disposition de Pélissier, et c'est surtout la progression de certains joueurs que je trouve très intéressante. Il a réussi à en ressusciter certains. Je pense à Da Costa et je pense aussi bah, à un joueur, on parlait de Marseille, un joueur qui a été prêté par l'OM, qui est Isaac Touré, qui a été mis totalement à l'aise par Pélissier, qui, je trouve, tient bien la baraque derrière. Et voilà, c'est la preuve d'un entraîneur qui peut-être n'est pas le futur grand entraîneur que certains attendaient et qui s'est planté à Lorient, mais ça reste une valeur sûre de Ligue 1.
Quand il est arrivé à Auxerre, il a pris cher. Il n'y a pas grand monde qui a salué l'arrivée de Pélissier pour sauver la GIA quand même. Quoi.
Ah, parce que, encore une fois, il s'est totalement planté à Lorient, on ne va pas se mentir. Il a eu du temps en plus à Lorient. Hein. Alors, ils font une deuxième partie de première saison qui est honorable, mais je pense qu'on s'attendait à beaucoup mieux vu ce qu'il nous avait montré à Amiens dans l'intention et dans la volonté de jouer. Là, je trouve que sur son aventure lorientaise, notamment bah, avant qu'il se fasse renvoyer, il avait tendance à la jouer un peu petit bras, ce qui était très surprenant venant de sa part. Là, on retrouve Christophe Pélissier qui a envie de produire des choses, même si peu importe la qualité de son effectif.
Après, attention, je répète, hein, c'est pas tout le temps du football chatoyant. On l'a vu contre Marseille où il mène au score sur cette frappe de Birama Touré, il me semble, et qui ne réussit pas à garder ce score.
Mais parce il ne que... ferme pas, Walid.
Oh, si, je
non,
trouve quand même,
en fait, sais, le match, par exemple, tu parles du match de l'OM, ce qui se passe. Tout simplement, c'est que Marseille se réveille et commence à vraiment represser au milieu de terrain.
Globalement, c'était un bloc, sur la première mi-temps, c'était un braquage au Serrois.
Mais c'est une question, une différentielle de qualité.
Mais c'est juste pour expliquer, pour dire que ce match-là ne symbolise pas tous les matchs d'Auxerre. Et je trouve que,
Sur ce match-là, juste pour te répondre, pour finir de te répondre, c'est pas le bus qu'ils mettent. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils sont pressés et qu'ils n'ont pas la qualité technique pour garder la balle et pour faire face au pressing marseillais. Mais à aucun moment, on a cette impression qu'on a avec pas mal d'équipes du bas de tableau, que les mecs se recroquevillent. Ils marquent un but et ils se recroquevillent. Ils sont concentrés
sur les 30 derniers mètres. Par contre, sur d'autres, non. Et notamment, bah, quand on compare avec Nantes, sur ce match Auxerre-Nantes, Auxerre avait fait un très très bon match. Je les avais vus aussi contre Monaco, même s'ils avaient perdu, très intéressant. Voilà, il y a eu des matchs contre Rennes où ils ont fait 0-0. Le match contre Lille aussi, un partout. Je trouve que cette équipe-là, avec les moyens qu'ils ont, dans une saison où il y a 4 descentes notamment, ils se sont bien repris. Moi, je pensais vraiment qu'au Auxerre allait descendre au bout de 10-15 journées, que ça allait prendre la direction d'un Angers ou d'un 3, et c'est pas ce qui se passe. Et quand on regarde ce que fait Nantes, et surtout le calendrier, je répète, hein, mais aujourd'hui Auxerre est à 34 points, Nantes à 33 points, Nantes va jouer Lille, va à Lille. Lille qui joue la 4e place et la 5e place, et derrière ils vont aller à Angers, et Angers sur les dernières semaines qui est totalement une équipe qui est totalement relâchée, qui est en match bonus avec des joueurs qui doivent aussi se montrer pour l'année prochaine. Et ben c'est pas simple de jouer Angers. On a vu Marseille, on a vu Paris. Voilà, donc moi sincèrement Nantes, je suis pas sûr du tout qu'ils se maintiennent, parce que Auxerre,
c'est quoi les derniers matchs d'Auxerre?
Auxerre c'est Lens, et Lens s'ils gagnent contre Ajaccio. C'est Toulouse. Ils vont à Toulouse là.
Toulouse et Lens,
Toulouse, et après ils reçoivent Lens.
C'est 38 journées.
On va pas se mentir, Walid. Le calendrier reste quand même beaucoup plus favorable pour Nantes.
Je suis pas sûr de ça.
Parce que, regarde.
Avec Lille demain?
Pas avec Lille, mais la dernière journée.
Angers, Mais moi, je pense qu'Auxerre va prendre des points à Toulouse. Je pense qu'ils vont prendre des points à Toulouse. Et Lens, attention. Parce que Lens, s'ils gagnent contre Ajaccio, c'est terminé pour la deuxième place. Donc ils vont peut-être venir en claquette chaussette la semaine prochaine.
Je sais pas si c'est le genre de la maison.
Ouais, c'est pas le genre de la maison, mais.
Je les vois mal laisser filer un match dans le parc.
Je les vois surtout mal mettre des chaussettes avec leurs claquettes.
Ah si, je peux te dire que c'est Kofofana.
Mais toi, t'es un peu style claquette chaussette type.
Ah non, pas du tout.
Moi, j'imagine bien claquette chaussette, faire des stories d'un radio daron, je sais pas quoi là, avec bricolé et tout.
Ouais. Mais sans, non.
Moi, j'aime bien.
Tong.
J'aime bien claquette chaussette, moi.
Ouais,
à la maison.
Mais vous êtes totalement trois trains de retard, les gars.
Pourquoi?
Faut mettre des crocs.
Ok. Si jamais un jour je vais travailler à l'hôpital, j'y penserai. Jonathan est là, supporter de la GIA au 32-16. Salut Jonathan.
Salut à toute l'équipe.
Salut Jonathan. Salut Jonathan.
Bon, la question évidemment qui est sur toutes les lèvres, t'es plutôt tong ou espadrille?
Moi, je suis plutôt claquette.
Bon, Jonathan, un point d'avance sur le FC Nantes pour ton AGIA. Est-ce que tu partages l'optimisme de l'after ce soir, finalement, de Walid et de Jonathan pour les Auxerrois?
Honnêtement, aujourd'hui oui,
il y a quelques matchs, j'aurais pas dit ça, parce que Nantes, je les voyais beaucoup plus forts avec la Coupe de France, le parcours que ce soit en Coupe de France, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, oui, oui, pour la simple et bonne raison que on a eu un gros, une grosse fin de championnat avec Marseille, Paris, etc. Et on a été très très bon. Enfin, on a raté des bouts de match, mais ça va avec la valeur de l'équipe qu'on a. Sinon, on est assez bon, je trouve. Comparé à Nantes où c'est horrible d'avoir joué quoi. Enfin avec tout le respect que j'ai pour le club nantais, c'est pas bon. Auxerre c'est meilleur, donc effectivement je pense qu'on peut prendre des points à Toulouse et même aller en prendre à Lens qui viennent en claquette ou en espadrille, ça c'est pas grave, mais dans tous les cas c'est sûr que je vois pas Lens lâcher un match, mais dans la tête psychologiquement quand tu sais que tu finis deuxième, bon voilà, il y a toujours un petit peu de relâchement alors que Auxerre voudrait finir leur saison bien à la maison et et voilà, donc je pense qu'on peut arriver à prendre des points et à se maintenir.
Et le style Pélissier que met le style, j'y vais peut-être un peu fort, mais sur ce que dit Walid, sur ce qu'il a vu d'Auxerre et qui lui a plu depuis l'arrivée de Pélissier, tu partages toi aussi l'agia de Pélissier te plaît, et pour la suite, c'est ce que tu veux voir.
Plaire, c'est un grand mot, mais par rapport à ses concurrents, pour moi, oui. il y a des choses bah, intéressantes.
Non, et puis vu l'effectif, de toute façon.
Moi, personnellement, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que au début, j'avoue que quand on voit l'effectif comme ça, le 5-4-1 ou le 3-5-1, comme on le voit, l'animation est assez, je dirais pas, c'est bizarre. Mais comparé à des équipes effectivement quand ils jouent en 5-4-1 qui ferment et c'est tout fermé, nous on essaye de sortir proprement, d'aller vers l'avant, et même avec un seul attaquant je pensais pas qu'on pourrait arriver à marquer des buts, on arrive à en mettre quelques-uns quand même et à faire mal à nos adversaires. Pour nos attaques on essaye de finir sur des bonnes actions et donc je trouve ça sur quelque chose, enfin un tir cadré ou voilà, donc je trouve que effectivement je suis d'accord, ça fait plaisir à voir jouer et surtout que le mercato d'hiver nous a fait beaucoup de bien parce qu'on a des joueurs qui sont assez technique quand même. Massengo en priorité. Derrière, on a un costaud comme Isaac Touré, donc et qui en plus sait garder le ballon et qui en plus apporte offensivement. Parce que du coup, quand on joue à 5 derrière, bah du coup, ça peut, on peut mettre un mec devant qui monte.
Radou aussi. Radou fait du effet. Est une bonne recrue, hein.
Mmh. Et Radou est un grand, qui est une très bonne recrue. Après, bon, le gardien, Costi, j'étais pas super fan, mais on va dire que la défense n'était pas en confiance. Peut-être.
Ah, mais il fait du bien, tactique.
Et voilà. Jonathan, tiens, regarde, reste avec nous, parce ouais. que j'aurais que tu regarde, tu restes en ligne. Il y a Emeric qui nous appelle et qui est supporter nantais. On lance un peu le match, quelque sorte.
D'accord.
Salut Emeric.
Pas de problème. Toujours dans l'amitié, il n'y a pas de souci. Ah. Mais oui, j'ai écouté un petit peu les supporters auxerrois. Je suis assez d'accord avec lui au final. En tant que supporter nantais, c'est assez compliqué. Il y a deux mois de ça, on avait 0,4% de chances de descendre en Ligue 2. On se retrouve aujourd'hui avec 45% de chances de descendre de ce que j'ai vu là sur les derniers sondages. Donc compliqué. J'ai vécu la déroute en finale au Stade de France contre Toulouse. Voilà, je sens que les joueurs aujourd'hui, ils jouent bien 20 minutes, on va dire, au début, et ils sont vite crevés. J'ai l'impression que la victoire en Coupe de France l'année dernière nous a fait beaucoup de mal au final. C'était une superbe émotion et on a vécu une super saison en Europe, mais j'ai l'impression que le trop plein de matchs et d'être sur tous les tableaux, ça a pas forcément eu du bien au niveau de l'effectif. On a pas forcément l'effectif pour jouer partout, quoi.
Ouais, qu'est-ce qui ferait, Emeric, que Nantes se sauve? Est-ce que toi, en tant que supporter, tu les vois tous les week-ends, tu les connais mieux que nous? Est-ce qu'il y a un truc qui te fait dire qui peuvent s'en sortir quand même, ou même toi, tu vois pas grand-chose là?
Franchement, en toute honnêteté, c'est compliqué. Je vois un peu le tunnel. La lumière est très loin pour moi en ce moment. Parce que les supporters sont restés présents pour moi jusqu'au bout. Au match à Montpellier, on a bien vu, l'ambiance était là. Il y avait 30 000 personnes dans le stade. Et on prend quand même 3-0 à la maison. On joue bien les 20 premières, la première demi-heure, on joue bien, mais on n'arrive pas à la mettre au fond. Et derrière, bah, le scénario fait que voilà, on en prend 3. Donc, je pense qu'il y a une cassure qui s'est créée là encore plus sur le dernier match. Et franchement, je vais croiser les doigts de pied, je vais tout croiser demain soir, mais j'ai du mal forcément à voir le truc se faire, franchement, je nous vois mal partir.
Ouais. Et puis il y a peut-être le souci mental aussi, Emeric, c'est de se dire que ces joueurs, ils étaient pas prêts pour ça, quoi. Jonathan, qui est là, toujours le supporter auxerrois depuis le début de saison, j'imagine que supporter comme joueur, vous étiez prêt à vous battre pour vous maintenir. Côté Nantais, c'était pas l'idée, quoi.
Ouais, nous, en ce qui nous concerne, c'est sûr que le problème, c'est qu'on a commencé la saison très tard, parce que on savait pas si on allait rester en Ligue 2 ou en Ligue 1. Donc le mercato, on l'a fait super tard, ce qui fait qu'on a pris énormément de points et que là, on se retrouve dans ces situations-là. Maintenant, je pense que Nantes, comme disait Pédicier à Torcy, c'est tout est dans la tête. Sinon, qui gagne la Coupe de France, je pense qu'ils sont sur une bonne lancée et se maintiennent. Mmh. En perdant la Coupe de France, patatrac, quoi. Tout tombe. Mmh. Nous, on savait que depuis le début, ça allait être très, très compliqué, comme tu dis. Et heureusement qu'on a fait des bonnes recrues cet hiver qui nous a permis de pouvoir arriver à...
Mais Nantes aussi a investi grandement sur le marché des transferts cet hiver. Tu vois, il y a eu Mollet.
Delors, il a marqué ou pas?
Non, zéro but. C'est quand même
Delors,
terrible.
C'est un sacré flop.
Quand tu vois la différence de moyens entre les deux équipes, quand tu vois la différence en termes de qualité des joueurs et profondeur d'effectifs, Auxerre, moi, pour conclure sur l'avis de Walid a entièrement raison, Auxerre mérite plus. Okay. C'est factuel.
Merci les gars, Emeric, Jonathan, merci beaucoup d'avoir
été là. Bonne chance de la fin de saison, les gars.
C'était cool.
Bah, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux.
Merci beaucoup.
Salut, Emeric, Jonathan, supporter nantais, supporter auxerrois, fair play ce soir. Merci à tous les deux. Dans un instant, l'after continue et on s'intéresse à la course à la Ligue Europa. Le LOSC est-il favori à la quatrième place? Pour l'instant, elle est pour Monaco, hein. 2 points d'avance sur Lille, mais on lance le débat avec Walid Acharchour, avec Jonathan McCardy, avec vous, supporters lillois, monégasques, rennais, n'hésitez pas. Vous faites le 32-16, vous nous appelez, Adri au standard décroche, vous reçoit, et vous passez en direct sur RMC, qui continue l'after ce soir en direct vidéo sur Twitch. Également, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Nous sommes vendredi le 26 mai 2023. Oui. Jonathan McCardy et Walid Acharchour sont là en direct sur RMC à la radio, en direct vidéo sur Twitch, en exclu sur la chaîne RMC Sport. Vous pouvez nous voir et commenter votre soirée foot. FNM écrit, les gars, donnez de la force. Ils regardent le chat. Et oui, on est là, on lit le chat.
Et comment la Twitcherie?
La Twitcherie, il y a du monde. Il y a du monde ce soir. Ça débat, ça revient beaucoup sur les 30 ans, de l'OM.
S'il y a de la question, on est là. Hein.
La plupart est d'accord avec vous sur Auxerre, qui est mieux parti que
bien évidemment.
Vous pouvez également commenter votre soirée.
Ces gens-là regardent la Ligue 1.
Sur Twitter, le hashtag RMC Live ou sur le Direct Studio. J'ai peur que Nantes nous fasse une Saint-Etienne, écrit Arthur sur le Direct Studio, notamment. On est en direct jusqu'à minuit, dans un quart d'heure. Le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, bien parti pour rester une année de plus au PSG. Les dirigeants parisiens se trompe-t-il en voulant prolonger Ramos? On en débat dans une dizaine de minutes avec vous, supporters parisiens au 32-16. Mais d'abord, j'attends les Lillois, les Monégasques, les Rennais, puisque à la veille de la 37e journée de Ligue 1, c'est la course à la 4e place, la course à la Ligue Europa qui nous intéresse. Et cette question, le LOSC est-il le favori à la Ligue Europa? Je rappelle le classement. La 4e place, pour l'instant, synonyme de Ligue Europa, elle est pour Monaco. 2 points d'avance sur Lille et 3 sur Rennes. Mais si on pose la question, bien sûr, c'est qu'il y a une dynamique, il y a les impressions laissées par les équipes. Walid, Jo, vous en pensez quoi? Lille est favori pour cette 4e place?
Favori, je ne sais pas. Lille vient de gagner contre l'Olympique de Marseille. Ils ont été faire 0-0 contre Monaco. Donc, ils ont montré sur la dynamique que c'était une équipe compétitive. C'est une équipe qui envoie aussi du jeu, mais qui est capable de perdre des points contre n'importe qui. Donc, moi, je vois Lille favori contre Nantes, par exemple. Mais si Nantes ouvre le score contre le cours du jeu, avec une équipe de Lille qui n'arrive pas à être efficace, je serais pas non plus surpris parce qu'on l'a déjà vu cette saison. Donc, c'est très, très dur. De toute façon, c'est 3 équipes. Même 4 équipes, hein, parce que là on parle de la 4e place, mais il y a aussi la course à la 5e place, parce que Lyon est encore dedans, notamment, où je pense que ça va se jouer jusqu'à la dernière minute. S'il y a un suspense avec le maintien, ça va être celui-ci, surtout qu'il y a des rencontres, il y a des confrontations directes avec ce Rennes-Monaco qui va être très important ce week-end. Maintenant, voilà, si Lille gagne contre Nantes, je pense que oui, ils prennent une belle option, parce que je vois pas Monaco aller battre Rennes à l'extérieur vu la dynamique.
Non, mais le calendrier est largement plus favorable pour le LOSC et il n'y a pas que le calendrier qui est favorable.
Alors tiens, je le donne. Rennes-Monaco demain 21h, ouais. Lille reçoit Nantes dans le même temps, et la dernière journée, Lille ira à 3 alors que Monaco recevra Toulouse et que Rennes ira à Brest.
Donc Lille doit faire 6 points. Mais est-ce que Lille, face aux petites équipes cette année, il n'y a pas eu par contre des accros?
Pourquoi 6 points?
Bah, contre Nantes et contre Troyes, si tu fais pas 6 points.
Oui, bah Lille est censé faire 6 points. Mais même si t'en fais 4, je pense que ça peut aussi peut-être passer.
Pour la quatrième.
Après, on va être très très oui pour la quatrième. On va être très très clair. Il y a pas juste le calendrier qui pour moi est en faveur du LOSC. Il y a aussi simplement la dynamique, c'est que Monaco a fait une saison qui est catastrophique. Alors je pense qu'on avait tous ce spectre-là un peu de se dire, allez, retour de Coupe du Monde, on va retrouver le grand Monaco. Ils nous ont habitués sur les deux dernières saisons à faire des secondes parties de saison en boulet de canon. Mais là, très franchement, le problème, c'est que quand on voit la qualité de l'effectif et la bouillie qui a été proposée tout au long de l'année, c'est quand même un petit peu dommage. Alors
quand tu vois le match de Lyon contre Lyon, pardon.
Mais pas juste le match contre Lyon. Quand tu vois le match contre Angers, contre Montpellier, contre Lens, il y a quand même beaucoup trop de contre-performances récemment qui font que très sincèrement, Monaco ne mérite pas de finir devant le LOSC. On va quand même rappeler les résultats récents. Tu perds 4-0 à domicile contre Montpellier. Tu perds 3-1 contre Lyon. Tu perds 3-0 à Lens. C'est des matchs clés. C'est ce genre de match-là que tu dois gagner quand tu veux prétendre aux places européennes, ou du moins essayer d'au moins récolter des points. Là, ça n'a pas été le cas. Le projet est de plus en plus illisible. Et très franchement, moi, je vais vous dire, je suis pas juste inquiet pour la fin de saison monégasque, mais je pense que c'est une inquiétude qu'on partage un petit peu tous. Je suis inquiet sur la suite du projet monégasque parce que ça manque clairement de visibilité et de lisibilité.
Après, sur le calendrier de Monaco, et donc ils vont à Rennes. Et après c'est Toulouse à la maison. Oui, donc
c'est une petite finale Monaco-Rennes.
Oui, voilà, c'est ça. Match décisif. Si Monaco fait nul contre Rennes et qu'ils gagnent contre Toulouse, ils seront quatrième.
Lille. Ouais. Lille a une meilleure différence de but.
La différence de but, en fait, là pour l'instant, parce qu'en deux matchs ça peut être comblé, Lille a 5 buts d'avance sur Monaco.
Absolument. Jérémy, supporter monégasque, nous appelle ce soir au 32-16. Sois le bienvenu sur RMC.
Bonsoir.
Dans l'after,
c'est Jérémy.
Jérémy.
Ça va? T'es en pleine forme?
Je suis en pleine forme. Pour pas vous cacher ce que je faisais là, je rentre de Dijon Paris FC.
Ah.
Donc autant vous dire que j'ai vu du grand football.
Qu'est-ce que t'as été faire là-bas dans ce traquenard quand même?
Parce que moi j'habite en Haute-Marne, donc on n'est pas loin de la Bourgogne. Donc du coup, on voulait voir un match du maintien.
Il y a eu un partout entre Dijon.
C'est comment Dijon alors de Dupraz? Alors raconte-nous. Comment ça m'intéresse puisque le Havre joue contre Dijon la semaine prochaine.
Ah clairement, c'est du Dupraz tout craché. À partir du moment où il fait un partout, au lieu de chercher la victoire, il passe à 3 derrière en mettant c'est nous Koulibaly. C'est pas comme ça qu'on peut gagner 3 points. Mais...
Après, ceci dit, depuis qu'il est là, d'un point de vue comptable, il enchaîne les bons résultats.
Mais par contre, ce mauvais résultat fait que je crois qu'ils sont encore relégables. Hein.
Ils sont 18e avec 42 points.
Ils vont au Havre.
Bon, retournons sur Monaco. Jérémy, je sais pas si tu y as été avec le bas de survêt de Monaco et le maillot de Dijon ce soir.
Même pas. sur tes lieux de travail, même pas.
Qu'est-ce que tu penses de cette fin de saison? Est-ce que malgré les 2 points d'avance que Monaco a sur Lille, c'est Lille finalement qui est le mieux placé, le mieux parti pour finir quatrième?
Clairement, je suis assez d'accord. Quand je vois le jeu de Lille, forcément, ils ont quand même un jeu qui est quand même plus attrayant que ce qu'on peut voir du côté de Monaco. Comme c'était dit à l'antenne, je vois pas Monaco gagner contre Rennes. Même si j'ai beaucoup de supporters, je subis les jeux de Clément depuis le début de saison. Et ses choix tactiques, il n'y a pas eu le même 11 depuis le début de saison. Et clairement, j'ai même peur de ne pas être en Europe.
Alors, il faut quand même aussi bien préciser une chose, c'est que Rennes, il faut pas les effacer totalement de l'équation, parce que certes, il y a deux équipes hein, qui Rennes doit sauter deux équipes, mais il y a le Rennes Monaco là, donc c'est pour moi une petite finale. Et puis après, pour sa dernière journée, Rennes se déplace à Brest dans un match en jeu, etc. C'est pas impossible que Rennes. Moi, j'exclus pas un scénario où Rennes prend 6 points. Et si Rennes prend 6 points, où il termine? Est-ce qu'il termine pas quatrième aussi?
Après, il va falloir voir Lille. Hein. Parce que Lille, encore une fois, ils sont censés faire 6 points contre Nantes et 3.
Et si Lille en fait que 4?
Oui, bah oui, après là, on
et fait. Et Rennes, tu vois ce que je veux dire?
Là, on fait de la spéculation et de la comptabilité.
Mais si on fait le débat entre Monaco et Lille, je pense qu'il faut quand même ne pas fermer la porte à Rennes.
On inclut Rennes. C'est juste que dans ce match à 3, les Lillois.
J'ai une sensation qui est peut-être un petit peu. Bon, c'est pas forcément de l'ordre du concret, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais peut-être que voilà, ils restent sur 2 grosses victoires, sur 2 gros cartons, ils ont marqué 9 buts en 2 matchs.
Contre 3
contre 3 et Ajaccio qui joue à 10, mais peut-être que Genesio ait dit
actuellement 3 et au
CR. Laisse-moi finir. Peut-être que Genesio ait dit qu'il allait être là la saison prochaine, qu'il y ait un peu plus de clair, etc. Pourquoi pas, tu vois.
Enfin, les quatre derniers matchs, même les cinq derniers matchs de Rennes, les trois victoires, c'est contre Angers, contre Troyes, contre Ajaccio. Entre ces matchs-là, tu as une défaite à Nice.
Et tu
as une défaite à Montpellier. Donc à chaque fois qu'ils ont joué quand même des équipes un peu convenables, ils ont perdu. Donc il faut pas non plus, bien évidemment.
Ils ont perdu à Reims aussi.
C'est un point commun qu'il y a entre ces trois clubs, les gars. Ils ont perdu contre Lyon aussi. C'est leur irrégularité. Finalement, ces trois clubs peuvent bien jouer, faire des bons matchs par séquence, mais il y a toujours à un moment donné un accident.
Je préfère quand même Lille.
Mais c'est ça. C'est que sur ces trois clubs-là, c'est peut-être le LOSC qui.
Je préfère quand même Lille par rapport à la proposition, par rapport au fait que. Avec les joueurs qu'ils ont, on n'en attendait pas autant. Bon, en tout cas, moi, j'en attendais pas autant cette saison, et que c'est une équipe qui est quand même sur une dynamique positive. C'est-à-dire qu'en allant chercher cette quatrième place, Lille fait quand même une super saison. Rennes, s'ils font quatrième, ce sera bien, mais on s'y attendait. Et si Monaco fait quatrième, on sera déçu. Donc, c'est aussi une perception différente dans le
sprint final. Bien sûr, Valide.
Ouais, Jérémy, toi, tu as même peur que de pas avoir de Coupe d'Europe du tout. C'est-à-dire que si Lille et Rennes passent devant, c'est possible. Toi, tu comprends quelque chose au projet Monaco, Jérémy, puisque nous, on commence vraiment à plus rien y comprendre là. Qu'est-ce qui se trame là?
Le gros projet de Monaco, le souci, c'est que on investit dans des joueurs, on met pas moins de 10 millions sur un joueur. En général, ça va pas forcément ensemble. Il y a aucune cohérence entre on investit sur Vanderson, on investit sur Jean Lucas, qui était quand même catastrophique à Lyon et à Brest, et on essaie de mettre de l'argent sur des joueurs comme ça. Et derrière, on essaie de s'en débarrasser en les mettant en réserve et on espère en tirer 6 millions d'euros. Il y a pas de cohérence dans le projet en soi. Le problème, depuis quelques années, il était derrière. On a investi sur Maripane il y a à peu près 4-5 ans, et ça a pas amélioré la chose. Depuis Glick, je vois pas un seul défenseur qui était au niveau derrière. Mmh. Et encore, sa fin de saison dernière à Monaco, elles étaient pas fameuses.
Merci Jérémy.
Salut Jérémy.
Tu m'as un peu piégé, je m'attendais pas que tu finisses ta phrase comme ça. Même toi, j'ai l'impression que tu t'es piégé tout seul, Jérémy.
Oh non, ça va.
Non, ça va. Non, tranquille.
C'est ma première dans l'after, alors du coup.
C'est pas vrai.
Peut-être le stress.
Trop cool, Jérémy. Merci, tu reviendras ou pas?
Oh bah oui, je reviendrai.
Même si Jonathan est là, tu reviens.
Père de Monaco.
Ouais. Avec plaisir, Jérémy.
Il est dur, Jérémy, quand même.
Pourquoi?
On disait si c'est pas mal quand même, les gars.
Oui.
Les défenseurs.
Oui. Oh, c'est pas mal. Après,
après, tu compares au Glick.
Pour le très très haut niveau, il y a aussi parfois.
Ouais. Bon, international.
Il a fait globalement une belle saison en Ligue 1. Mais après, moi, je.
C'est un bon défenseur de Ligue 1, Walid.
Bon défenseur. Enfin, un très bon défenseur, c'est un bon défenseur.
Alors, Jérémy,
bon merci d'avoir été
là.
Bon défenseur. Enfin, très bon défenseur. On me dit phénomène. Bon défenseur.
Quelques
messages, les gars, dans le chat de la chaîne Twitch RMC Sport. Mustapha, we love comedy. Déjà, non seulement il a le pseudo le plus long de la soirée, mais il écrit sur Monaco, faut un grand coach si possible. Donc effectivement, la question de Clément se posera peut-être. Matmut Uff et surtout un autre gardien que Nubel. Effectivement, on n'en a pas parlé ce soir, mais Nubel a fait catastrophique cette année. Donc la 37e journée de Ligue 1, je vous rappelle, ce sera l'événement demain à suivre en intégralité sur RMC. Les 10 matchs multiplex, ça va être dingue. Demain, on sera ensemble dès 20h, même dès 18h sur RMC pour l'intégral foot spécial Ligue 1. Toutes les infos, les compos, jusqu'au coup d'envoi. Nos 10 commentateurs sur toutes les pelouses pour vous faire vivre cette grande soirée. Et dans la foulée, un samedi soir, ils seront là. Gilbert Bribois et Daniel Riolo demain soir pour une grande soirée exceptionnelle. Dans un instant, l'after continue avec le Paris Saint-Germain. Les dirigeants veulent prolonger Sergio Ramos. Je vous donne toutes les infos, il y en a en débat. Est-ce que ce serait une erreur de faire ça? On vous attend, supporters parisiens, au 32-16. L'after continue jusqu'à minuit avec Walid Acharchour, avec Jonathan McCarty. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Merci d'être là en ce vendredi soir, début pour certains d'entre vous d'un long week-end avec lundi férié. Merci de commencer ce week-end notre compagnie sur RMC, c'est l'after avec Jonathan McCarty, Walid Acharchour, qui dit after le vendredi dit live Twitch, direct vidéo sur la chaîne RMC Sport. Vous pouvez nous voir également commenter votre soirée sur le direct studio également. Vous pouvez nous envoyer vos messages sur les applis RMC, RMC Sport. Arthur notamment écrit Rennes, c'est quand même le pire chaque année, c'est quand même la pire déception chaque année. Bon, Arthur, la prochaine fois, mets les mots dans l'ordre, s'il te plaît.
L'année dernière, c'était pas une grosse déception parce qu'ils envoyaient du jeu et que il y avait quand même de belles choses. Là, cette année, oui, pour moi, c'est une grosse déception.
Ah ben, je pense qu'on était pas mal à penser qu'il pourrait terminer sur le podium cette année.
Oui, oui, bien sûr.
Donc, cette saison, on est déçus.
Steph nous écrit Concarneau en Ligue 2 avec plein de points d'exclamation. Mais oui, mon Steph, on en a parlé en début d'émission. Concarneau qui monte en Ligue 2 avec Dunkerque. Et parmi les infos du soir, c'est Nancy qui est relégué. Hein. Nancy relégué à nouveau. Dans une dizaine de minutes, l'actu du jour, les gars, quelques petites choses ce soir à vous annoncer. Mais d'abord, le Paris Saint-Germain et les infos RMC Sport, Fabrice Hawkins du jour. Ramos, qui a été un temps annoncé sur le départ, pourrait finalement prolonger d'une saison supplémentaire. Il arrive en fin de contrat le mois prochain, fin juin. Les dirigeants du club, donc finalement, réfléchissent à prolonger Ramos. C'est la tendance. Une prolongation d'un an est à l'étude avec une baisse de salaire. La presse espagnole parle d'une diminution de 50%. Lui se verrait bien également rester à Paris, même éventuellement baisser son salaire. Il est conscient qu'à son âge, bientôt 38 ans, il ne peut plus prétendre aux mêmes émoluments. Le PSG ferait-il une erreur en prolongeant Ramos, supporter parisien? On vous attend au 32-16. Walid Jo.
Moi, j'étais très tranché il y a plusieurs semaines sur ce cas-là, où pour moi, Sergio Ramos ne devait pas prolonger au Paris Saint-Germain. Je le suis un peu moins parce que depuis, il a montré une certaine fiabilité par moment, où moi je trouve qu'avec Danilo Pereira, c'est celui qui s'en sort le mieux sur les dernières semaines au Paris Saint-Germain.
En Ligue 1.
Contrairement à Marquinhos. Même contre le Bayern Munich à l'aller, c'est l'un des meilleurs défenseurs, malgré le marasme complet. Il sauve 2-3 ballons très très chauds sur Moussiala et sur Choupo-Moting. Maintenant, moi, je reste quand même dans mon plan où Sergio Ramos ne doit pas continuer par rapport à son âge, par rapport à son salaire, par rapport au fait que, pour moi, le PSG doit faire peau neuve dans ce secteur défensif. Et on en a parlé cette semaine quand j'entends Lucas Hernandez, qui est un défenseur que j'aime beaucoup, mais qui lui aussi a beaucoup de pépins physiques sur les dernières années. Un Skriniar qui apparemment s'est déjà bouclé, qui lui aussi a des gros problèmes au dos. Rajouter un Ramos qui, même si cette saison a joué beaucoup plus que l'année dernière, avec son âge, avec tout ce que ça comporte, moi je trouve qu'encore une fois tu te fourvoies du côté du PSG.
Je pense que Thibaut t'a donné l'élément le plus essentiel pour ouvrir le débat.
On essaye à chaque fois.
C'est de dire qu'il est d'accord, d'une part qu'il a conscience de son âge et d'autre part qu'il est d'accord pour baisser son salaire. Et pour moi, je l'interprète de cette manière-là, à savoir que il a compris que ses plus belles années sont passées et que il ne peut pas forcément prétendre à une place de titulaire et qu'il est prêt à se mettre au service du groupe. Je le prends un petit peu comme ça. Alors je me fais peut-être des films, hein, mais je pense que Sergio Ramos est quelqu'un d'intelligent et je pense surtout que c'est un gagnant. Alors ça peut être discuté et c'est pas le débat du soir, mais pour moi c'est le plus grand défenseur central de l'histoire du foot et je pense que c'est surtout quelqu'un qui est irréprochable, exemplaire dans un vestiaire. On a beaucoup raillé le fait qu'il venait parce que c'est vrai que ça faisait un peu maison de retraite, mais c'est plus la faute du club qui lui a donné un contrat faramineux. Mais je pense que ça peut être un vrai atout dans un vestiaire si il accepte cette place de vieux sage, un petit peu d'encadrant. Alors certes, prêt à rendre des services sur certains matchs de Ligue des Champions, pour rentrer ou pour commencer certains matchs de poule.
Là, on parle du PSG, un club qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions. Tu vois,
c'est ce que je t'ai dit.
Non, mais rendre des services. Le PSG veut pas des joueurs qui rendent des services. Il veut les meilleurs joueurs.
Mais
ce qui lui permet de gagner
besoin,
la Ligue des Champions.
Pour gagner la Ligue des Champions, t'as besoin d'un effectif de 17-18 joueurs. Et si Sergio Ramos en fait partie en étant l'option numéro 2 bis, voire 3 au poste de défenseur central,
oui, mais
sur le banc des remplaçants, je dis pas non. Un mec qui s'est gagné.
Tout dépendra,
oui, mais il a dit, il est OK pour baisser son salaire.
Oui, mais baisser
après,
son salaire,
jusqu'à quel point?
De quelle manière?
D'accord.
On parle de quelqu'un qui prend 10 patates par an, quand même.
Bien
donc,
sûr,
il faudra voir.
Mais parce il est d'accord pour baisser.
Parce que l'adjoint du coach, si c'est pour lui donner 7 ou 8.
Non, mais c'est pas de ça. Donc, je sais pas pour être adjoint du coach. Est-ce que on peut être d'accord sur le fait que pour gagner la Ligue des Champions, c'est quand même important d'avoir des joueurs d'expérience,
oui,
et encore mieux si c'est des mecs qui l'ont gagné à de nombreuses reprises.
Oui, mais tu sais très bien, Jonathan, que si
ça peut faire la différence.
Que si Sergio Ramos
mais ça peut
est encore dans l'effectif, il fera tout parce qu'il a du professionnalisme. Sergio Ramos pour être titulaire, il fera tout. Donc il se rapprochera de ce niveau-là. Et quand moi j'entends et quand je vois les joueurs qui sont au Paris Saint-Germain qui vont revenir de près ou qui vont être achetés, c'est pas le mot fiabilité qui me vient en premier.
Ouais, on va voir s'ils arrivent.
Et donc le problème, c'est que si même les titulaires, les supposés titulaires, Lucas Hernandez qui va peut-être arriver, Skriniar qui va peut-être arriver, Kimpembe qui va revenir de blessure, qui lui aussi enchaîne les pépins physiques, si ces mecs-là,
Corrèle ça avec la, le fait que Ramos
Je vais venir. Si ces mecs-là, sur lequel tu dois miser en étant titulaire sur les grosses échéances ne sont pas fiables, ne sont pas là. Tu vas revoir Ramos. Et Ramos à 38 ans dans des gros matchs en huitième, en quart de finale de Ligue des Champions. Je suis pas sûr.
Alors, je retourne la question.
Et puis en plus,
parce que juste pour terminer,
on parle de Luis Enrique, peut-être qu'il va arriver sur le banc. On sait comment ça s'est terminé avec l'Espagne Enrique, où c'est lui qui lui a mis un coup de chausson. Donc, dans le vestiaire.
Nous, on est plus Xabi Alonso.
Oui, enfin, non. Non, on n'est pas plus Xabi Alonso. Voilà. Ils veulent Xabi Alonso, mais Fabrice Hawkins a dit hier que Xabi Alonso a gentiment refusé en disant je vais attendre le Real dans un an ou deux ans.
Restons sur Ramos, mais je comprends pas ton raisonnement, Walid, parce que oui, je suis d'accord, mais pourquoi tu prends le fait que Paris est sur des pistes qui sont tout sauf fiables, et effectivement ce club a besoin de fiabilité. On l'a vu, hein, c'est pour ça que par exemple Renato Sanchez était totalement contre.
Ouais.
C'est pas un joueur qui est fiable. Mais en fait. Ramos, si tu lui donnes ce rôle de remplaçant,
oui.
Peu importe qui arrive, c'est un remplaçant qui est un bon remplaçant. Tu veux qui à la place?
Un remplaçant à 8 millions d'euros ou 7 millions d'euros
à
l'année, ça.
Tu veux qui à la place? Tu veux qui, Walid, à la place?
Pourquoi pas? T'as sûrement raison, Jonathan.
Après, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, il faut absolument de la fiabilité sur les joueurs qui sont
titulaires en défense. Moi, je t'ai dit que je n'étais pas aussi tranché qu'il y a encore quelques mois sur la question. Je peux faire un pas vers toi sur ton histoire de relais, etc. dans le vestiaire. Maintenant, moi, je suis pas fan d'un remplaçant qui s'appelle Sergio Ramos.
Fais un pas vers Jonathan, mais pas plus. Parce qu'après, il peut devenir violent et c'est relou.
Oui, ça après.
J'ai pas envie de vous séparer.
Après, moi, j'ai pas peur. Hein. Si je perds la bagarre, on aura tout mis. Hein. Voilà,
on aura tout donné.
Exactement.
On sort sans regret.
Et ce sera le plus important.
Bien sûr.
Exactement.
Et c'est surtout important que tu donnes tout.
Exactement.
Parce que sinon, ça dure 10 secondes et là, peut-être, tu pourras tenir 20.
Non.
Qu'est-ce qui s'enflamme. Tu mériterais que
ça va pas.
Tu mériterais.
Je vais pas m'embrouiller avec mes collègues.
De te prendre une petite guillotine à la Cyril Gann. Souleymane, supporter du Paris Saint-Germain.
Il est sympa, hein, lui.
Il s'appelle au 32-16.
Sympa, hein.
Ouais, je serai le premier à commenter sur Twitch ton prochain combat, t'inquiète pas, et à stresser pour toi, mon Jonathan. Souleymane est là, supporter du PSG. Salut Souleymane.
Ouais, salut toute l'équipe.
Ça va, Souley?
Content de repasser à l'antenne.
Sois le bienvenu.
Sois le bienvenu.
Voilà.
Bon, Ramos.
Ramos, il faut le garder. Donc, au début, il était blessé. Il a eu beaucoup de soucis à son âge, bien sûr, pour revenir à son meilleur niveau. Mais moi, je trouve qu'il est bien revenu et il a été l'un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur parisien sur la deuxième partie de saison. Voilà. Moi, je parlerai surtout de Marquinhos qui a complètement était à la ramasse, quoi.
Ah oui, mais lui, il n'y a plus de doute. Hein.
Ah, l'homme à qui on a donné encore 50 contrats et qu'on a donné 18 millions d'euros par an.
Mais, le capitaine. Mais, oui, pourquoi on parle toujours de l'âge. Mais moi, Ramos, c'est l'un des meilleurs. Défenseur de l'histoire du foot, sinon, voilà, le meilleur. Moi, je suis fan de Thiago Silva, je le mettrai au-dessus de Ramos, malgré tout. Mais bon, bref.
Ramos, c'est plus le joueur dont tu me parles. Tu dis c'est un des meilleurs défenseurs de tous les temps, ça l'a été, mais c'est plus le cas aujourd'hui, on le voit tous, on est d'accord, non?
Mais il n'est pas revenu, on disait que Ramos, il était fini, qu'il ne revenait jamais. On a bien vu sur les gros matchs surtout qu'il était revenu à son meilleur niveau.
Oui, après, attention.
Meilleur niveau, je ne suis pas sûr.
Hein. Doucement quand même.
Avec convenable.
Voilà. Moi, je dis que ça a été le moins mauvais avec Danilo qui, lui, c'était le moins mauvais. Mais à un moment donné, moi, je suis désolé, mais je vous pose la question. Que ce soit aussi à Jonathan.
Vas-y.
Aujourd'hui, à 37 ans, donc 38 ans en mars.
Oui.
Qui en Europe va donner un contrat aujourd'hui à Sergio Ramos? Quel club, quel gros club aujourd'hui va donner un gros contrat, enfin un contrat à 7, 8, 9 millions d'euros comme le PSG peut le faire avec Sergio Ramos?
7, 8.
Le Real Madrid, déjà il y a 3 ans, ils ont mis un coup de chausson parce qu'ils demandaient une augmentation trop élevée avec son frère.
Ah, moi je te dis ça, United, ils en sont capables.
United,
ils sont capables.
D'accord, déjà on n'est pas sur la même range de club par rapport au PSG et les ambitions de la Ligue des Champions.
United en est capable. Je pense que si l'Inter pourrait faire un effort.
38 ans.
Excusez-moi,
on parlait de la même chose de Thiago Silva il y a deux ans. Qu'il était fini.
Il n'avait pas le même âge. Il n'avait pas le même âge, Souleymane.
Laissez finir. Vas-y.
Si, ils ont pratiquement le même âge, Ramos et Thiago Silva. Je pense même que Thiago Silva, moi, je suis un grand fan de Thiago Silva. Pour moi, c'est le meilleur défenseur.
Moi aussi, je suis un très grand fan. Ne t'inquiète pas.
Je suis un très grand fan. Tout le monde disait qu'il fallait s'en débarrasser.
Mais il avait 35 ans à l'époque.
Oui, 35 ans.
Il avait 35 ans à l'époque. Et moi, par contre, j'étais de ceux qui voulaient garder Thiago Silva. Surtout quand on voit comment ils ont géré l'après et ce qu'ils ont donné à Sergio Ramos, finalement, en contrat. Mais moi, je pense que les débats sont différents et les contextes sont différents. Aujourd'hui, je répète, Sergio Ramos va avoir 38 ans en mars. Sergio Ramos ne peut pas jouer dans une défense à 4. Sergio Ramos ne peut pas enchaîner une grosse saison. Voilà, tout ça, c'est aussi important. Alors, moi, j'ai fait un pas vers Jonathan quand je lui ai dit, OK, dans un rôle de substitution, pourquoi pas? Mais dans un rôle de substitution, quand t'as un équilibre fort, quand t'as un capitaine à qui t'as donné 18 millions d'euros, qui est un taulier, ce que Marquinhos n'est pas depuis plusieurs saisons avec le Paris Saint-Germain, depuis notamment la fameuse remontada au Bernabeu. Ça, c'est des choses réelles. C'est des choses dont il faut parler. C'est pas, en fait, le débat, c'est pas juste, oui, Ramos, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas? C'est, est-ce que déjà, il va accepter ce rôle-là? Est-ce que aujourd'hui, le PSG peut continuer à donner des salaires quand on parle d'une masse salariale exorbitante?
Tu parles de salaire, je suis d'accord avec toi. Pareil, moi, attention, j'ai pris en compte juste le fait que. Moi, j'ai juste pris en compte le fait que Thibaut nous disait qu'il acceptait de revoir son salaire à la baisse. Après, si ça reste un salaire beaucoup trop élevé,
on sait qu'il y a quand même la masse salariale. Il va pas être payé en ticket
restaurant. Je suis d'accord. Mais ça dépend de combien la baisse est acceptée.
Si c'est 50%, après, tu vois, s'il était à 16 et qu'il est à 8, comment tu vis?
Tu sais, moi, je te demande, regarde, on va faire une simulation.
Très vite, parce que.
On est l'année prochaine. On est dans un an, tu vois. On va dire que Paris s'apprête à jouer un quart ou un demi-finale de Ligue des Champions. Il y a des cartons rouges, il y a des blessures. Tu préfères avoir qui en réserve? Tu préfères avoir un jeune prometteur que tu as pris et qui sera peut-être au sommet du football européen dans 3-4 ans ou d'avoir Sergio Ramos sur ton banc?
Bah là, je sais pas qui tu me cites. Là, tu me parles d'un joueur X.
Donne-moi un défenseur central prometteur.
Je sais pas si demain, moi, tu me dis.
Prometteur.
Bah, Ndika, par exemple.
Ah, sur le banc, Ndika, il a déjà joué. Bon, tu préfères avoir sur le banc Ndika ou Ramos?
Moi, je préfère
pour un quart de finale de Champions.
Aujourd'hui, sur le banc.
Ouais.
Avec trois défenseurs centraux.
S'il y a eu un carton rouge, une blessure, forcément, il y en a un qui doit jouer.
Je préfère un joueur qui a 26 ans, qui a gagné l'Europa League l'année dernière.
Ouais, Ndika, c'était pas vraiment du jeu parce que ça va coûter une blinde aussi. Tu sais bien.
Non, il est libre, Ndika. Il est en fin de saison.
Je remercie Souleymane.
Pour moi perso, fois qu'il est au top physiquement, moi je ne parle pas d'âge. Parce qu'on a vu des défenseurs centraux.
Ok, bah très bien, c'est moi qui me trompe alors. C'est moi qui me trompe.
L'équipe MB, etc.
Donc, okay, Souleymane.
Et puis au Paris Saint-Germain, on n'a pas le temps avec l'âge, les jeunes ou quoi. Il faut être performant de suite.
Mais après, t'es pas une maison de retraite. T'es pas une maison de retraite.
Souleymane, merci d'avoir été là. Bon week-end à toi.
Salut Souleymane, c'était intéressant, c'était pertinent. Souleymane,
bye. Paris qui sera peut-être officiellement champion demain à 21h.
Ils seront sûrement
le match
demain.
À Strasbourg. Juste avant de terminer, les gars, je voudrais qu'on dise un mot de l'actu du jour. Et notamment, en fait, vous allez me dire s'il faut continuer à relayer ce genre de truc ou pas. Donc je le fais, mais c'est peut-être la dernière fois. Vous me direz. Eric Cantona. Qui donne son avis sur le foot.
Stop.
Au Paris. On est d'accord?
Moi, ça m'intéresse.
Je vous donne la citation vite fait. Il dit dans le Parisien, le football français n'a pas d'histoire. C'est le seul pays au monde où une même ville n'abrite pas deux équipes. Alors oui, il y a des gens qui aiment le football, il y a de vrais fans, mais pas assez pour avoir deux clubs dans une même ville. Et je suis peut-être un vieux con, mais je préfère soutenir un football qui a une âme ou quelque chose qui me touche. Du côté de Paris, j'irais plutôt voir le Red Star à Saint-Ouen que le PSG. Est-ce que c'est de la provoque à deux balles
Du coup, il y a deux clubs dans la même ville là. Qu'est-ce qu'il raconte?
Je sais pas si c'est de la provoque à deux balles, mais sur la fin de phrase, il y en a qui préfèrent ce type de foot aussi.
Mais c'est dû à l'histoire du foot français, de la structuration, de la manière dont la ligue s'est construite, qui fait qu'il y a pas. Que ça n'a pas favorisé le fait qu'il y ait plusieurs gros clubs dans plusieurs villes. Il faudrait des longues heures.
Déjà, on n'a pas le contexte de l'interview.
Mais Wally, laisse-moi prendre la parole. Cantona.
Ouais.
c'est le roi de la démagogie. C'est le roi des robinets de tiède.
Bah,
c'est le
roi. Non, 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 pas de robinets de tiède.
Ah non, au contraire.
Des grandes chances, c'est de la merde.
Plutôt des saucisses qu'il envoie en l'air.
Des âneries démagogiques.
Pas tout le temps.
Il est insupportable. Moi, je trouve insupportable qu'il aille donner la leçon. Qu'il aille continuer à raconter n'importe quoi en prédisant l'effondrement de je ne sais quoi, de quel système financier.
Jonathan, tu fais la même chose dans France. Tu fais la même chose, je suis caricature.
Mais parce qu'il est caricatural.
Non, mais d'accord, mais.
C'est un acteur médiocre et un penseur encore plus mauvais.
Et d'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast.
Pas à la hauteur du joueur énorme qu'il a été.
De Roten sans flamme aujourd'hui qui en a parlé et qui lui a mis un tir, un petit tacle également. C'est fini pour
un tir ou un tacle, c'est pas la même chose.
Il lui a mis un tacle.
Jérôme qui fait un tacle.
C'est avant le tir. Ouais. C'est entre les deux.
Imaginez Jérôme faire un tacle ou pas.
Un tacle, c'est d'attaquant, quoi.
Il nous tacle tous les soirs, Jérôme.
Carton rouge.
Il essaye.
Je l'ai dit au quiz là, hier.
C'est un grand succès.
Il n'endort pas la nuit. Hein,
merci les gars. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés sur RMC, d'avoir appelé au 32-16, d'avoir commenté, d'avoir regardé sur Twitch également. Bref, merci à vous d'être là, fidèle. L'After revient demain, dès 20h, pour lancer la grande soirée foot. La 37e journée des gains, ça va être une tuerie demain, 21h. Tous les matchs en même temps. On va vivre ça ensemble en direct sur RMC dans la foulée. L'After avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Ciao, bonne nuit l'équipe.
RMC, l'After Foot.